Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À 2 heures en voiture de Toulouse, au bout d'une route à flanc des monts de la Cône, cachée dans l'une des vallées, se trouve Pratelon. Pratelon, un lieu situé dans le diocèse d'Albi, où vit le père Daniel Ange depuis 30 ans, la plupart du temps dans un ermitage. Ancien moine puis ermite, le père Daniel Ange est le fondateur de Jeunesse Lumière, une école internationale d'évangélisation. Pour ce carême, nous avons choisi d'aller interroger ce grand spirituel sur les 3 piliers de ce temps vers Pâques, la prière, le jeûne et l'aumône, 2e émission de cette série, le jeûne. Père Daniel Ange, bonjour.
Bonjour, bonjour à chaque auditeur, auditrice.
Voilà, merci de nous recevoir donc pour cette 2e émission de carême avec vous. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi la première où nous sommes donc à Pratelon, c'est dans le diocèse d'Albi, dans les montagnes. Vous êtes donc un ancien moine, vous avez été ermite et puis fondateur donc de cette école d'évangélisation Jeunesse Lumière, école donc qui accueille des jeunes chaque année pour un temps, on va dire, de formation, de construction de leur vie chrétienne, de France et d'ailleurs. Et cette école existe depuis maintenant, c'est la 33e année, c'est ça cette année.
33 ans, voilà.
33 ans. Parfait. Voilà, vous avez même fait des petits, il paraît-il, il y a d'autres écoles d'évangélisation à l'étranger. Combien d'écoles déjà à l'étranger ?
Eh ben, de Jeunesse Lumière, il y en a pour le moment 4, en Italie, au Bénin, en Pologne, un projet en Tchéquie et en Ukraine.
Voilà, donc école Jeunesse Lumière avec le père Daniel Ange, donc fin connaisseur évidemment de la vie spirituelle, qui va donc nous guider pendant ce carême. Alors pour cette 2e émission, donc sur l'autre pilier du carême qui est le jeûne. Alors, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait des couvertures de magazines sur le jeûne. Le jeûne voilà, est à la mode aujourd'hui. Il y a même des centres où on peut aller jeûner pendant quelques jours ou quelques semaines. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà peut-être de cette mode ? Est-ce que c'est un effet de mode ? Et si oui, pourquoi ?
Voilà. Eh bien, ça montre que cette... Tout simplement et tout d'abord une valeur humaine qu'on retrouve dans toutes les différentes régions de l'humanité, si je puis dire, spécialement dans les différentes religions. On connaît tous le ramadan en islam, et les bouddhistes, les hindouistes, etc. Donc c'est très universel. Et ça a été remis un peu à la mode récemment sous un tout autre aspect. Ce sont les fameuses grèves de la faim lancées par le grand Gandhi, qui grâce à ces jeunes a eu un tel impact sur toute l'Inde, a réussi à ce que les Anglais partent sans qu'il y ait de sang versé, une admirable figure. Un saint vivant l'évangile en dehors de l'église visible, comme les papes l'ont dit. Et on découvre surtout aujourd'hui la valeur thérapeutique du jeûne au niveau médical. Il est en Suisse, Canada, Allemagne, Danemark, des cliniques de jeûne sous surveillance médicale, souvent dans des très beaux lieux, en montagne, dans les forêts, parce que le calme, le silence, la beauté de la nature aident beaucoup à jeûner. Donc ce n'est pas dans des villes, etc., où on est facilement stressé par le bruit. Il faut que tout soit calme et tranquille. C'est sous surveillance médicale. D'habitude, c'est un mois entier de jeûne, où on descend progressivement, en mangeant de moins en moins, puis plus du tout, sauf de l'eau, et puis on remonte doucement la dernière semaine, en recommençant avec quelques jus de fruits, etc., pour que les choses ne soient pas trop brutales. Et donc, ça permet d'éliminer énormément de microbes. Ça sert aussi pour certaines pathologies, comme la boulimie, l'anorexie, toutes ces pathologies liées justement à la nourriture. Et puis, ce sont des chercheurs, des
écrivains. Vous dites que ça vivifie l'esprit aussi.
Comment ? Oui, oui, voilà. Aussi que ça vivifie l'esprit. Voilà. Tout à fait. Un des fruits, c'est justement la lucidité, la clarté d'esprit. C'est pour ça que beaucoup d'écrivains scientifiques, intellectuels, penseurs, chercheurs vont faire ces cures de jeûne. Je pense à mon ami l'abbé Laurentin, qui a écrit tant de beaux livres sur Lourdes, Medjugorje.
Alors, il faut repréciser, en fait, donc, qui est l'abbé Laurentin. C'est donc un spécialiste de la Vierge Marie, on dit un mariologue dans le jargon.
Voilà.
Voilà, un grand connaisseur d'un certain nombre d'apparitions.
Lui m'a dit que, pendant de longues années, il avait un mois complet de jeûne dans le Valais, comme ça, à 2000 mètres d'altitude, et que c'est à ce moment-là qu'ayant la plus forte clarté d'esprit, il écrivait la plupart de ses livres. Voilà. Et donc, c'est une très belle valeur humaine qui en ce moment, est en train d'être redécouverte, ce qui est une excellente chose.
Alors, est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, on voit la trace de l'esprit dans le monde qui travaille en voyant cette mode du jeûne?
Tout à fait, comme pour tant d'autres domaines. Et c'est souvent les non-chrétiens, par exemple, qui rappellent les chrétiens à l'importance du jeûne. Moi, je connais un bon nombre de personnes qui ont commencé à jeûner en voyant l'exemple des musulmans pendant le ramadan, en disant, mais pourquoi est-ce que je ne fais pas la même chose pendant le carême, juste un repas le soir, etc. Donc souvent, et le Seigneur se sert souvent des non-chrétiens pour nous ramener, vous voyez.
Oui. Est-ce que avant de dire quelle est la spécificité du jeûne chrétien, vous pouvez nous rappeler en fait quelle est-ce que c'est une obligation d'une certaine manière? L'Église nous invite à l'occasion du carême à jeûner, particulièrement lors du Vendredi Saint. Les musulmans, on le sait aujourd'hui, donc jeûne via le ramadan.
Voilà.
Nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on est censé faire en fait?
Alors, il faut d'abord dire que c'est enraciné depuis des siècles avant Jésus dans toute la tradition du peuple juif, la première alliance, le jeûne.
Mais avant qu'on le détaille, en fait, qu'est-ce qu'on est censé faire pendant le carême? Quel type de jeûne est-on censé faire pendant le carême? À quoi est-on invité par l'Église à l'occasion du carême?
Ah, mais ça, c'est ce qu'on va détailler, effectivement. C'est d'abord le jeûne, la nourriture, le jeûne dans tous les trucs où il y a une addiction, où je ne suis pas libre, où je suis esclave d'une addiction. Donc, ça recouvre un terrain très, très vaste. C'est ce qu'on va voir, on va détailler.
Et ce, particulièrement, donc, le Vendredi Saint, c'est ça, c'est...
Oui, alors, si vous voulez... C'est le strict minimum, mercredi saint, vendredi, samedi saint. Mais en fait, c'est chaque vendredi qu'il faudrait, et chaque mercredi, la tradition orientale, c'est extrêmement important. Ça joue un rôle beaucoup plus grand que chez nous latins. On a beaucoup, beaucoup abandonné et dévalorisé le jeûne chez nous. C'est pour ça qu'il est grand temps de retrouver la grande tradition et religieuse et juive et proprement spécifiquement chrétienne.
Alors, si on y vient justement à cette tradition spécifiquement chrétienne, quelle différence avec les jeûnes que vous avez décrits dans d'autres traditions religieuses ou des traditions philosophiques?
Voilà, alors je pense qu'il y a d'abord l'exemple de Jésus lui-même qui va jeûner 40 jours et 40 nuits, qui a faim, c'est mentionné, il a vraiment faim, il veut comme revivre ce qu'a vécu son peuple pendant 40 ans au désert, il veut appliquer tout ce que tant et tant de prophètes ont dit sur le jeûne et nous donner l'exemple pour faire comme lui, pas forcément 40 jours et 40 nuits. Voilà. Et c'est pour ça que les chrétiens de toute tradition orientale ou occidentale ont toujours aimé le jeûne. C'est une question d'amour, c'est pas une question de précepte, de contrainte, d'obligation, etc. C'est un besoin du cœur. Un besoin du cœur. D'abord pour s'unir tout simplement à Jésus, pour continuer, pour le laisser lui continuer en nous son jeûne. Et pourquoi jeûner? Eh bien d'abord, c'est une arme de combat extraordinaire. Nous sommes dans des temps de grand combat aujourd'hui. Il est spécifié que Jésus part au désert pour combattre, en duel, j'oserais dire, Satan. Et donc le jeûne va être un des grands, va nous donner le pouvoir d'être victorieux de Satan, parce que c'est une libération de toutes ces addictions auxquelles Satan nous pousse. C'est pour ça qu'il y a cette phrase de l'Évangile, justement, Marc 9, 29, ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière, et beaucoup de traductions rajoutent par la prière et le jeûne. C'est pour ça que les exorcistes doivent spécialement jeûner. Le démon est terrorisé par le jeûne. Alors, une sorte de puissance à notre prière.
Pour ceux qui ne sont pas familiers, en fait, est-ce que vous pouvez davantage préciser ce que vous entendez par démon et Satan?
Oui.
Pour ceux qui ne sont pas familiers de la foi chrétienne, comment vous préciseriez? C'est-à-dire que ce n'est pas du tout évident pour tout le monde, pour nos auditeurs.
Non, mais c'est évident pour ceux qui connaissent Jésus et l'Évangile, parce que Jésus en parle beaucoup. Jésus n'est pas un imposteur, n'est pas un menteur. Et c'est la seule explication de tout le mal dans le monde. Il n'y a pas d'autre explication. Ce n'est pas Dieu qui a créé le mal, ce n'est pas Dieu qui a créé la souffrance. Il a créé une création dans son admirable perfection originelle. Et donc, comment expliquer que dès l'origine, l'humanité, partout sur toute la Terre, il y a le mal, il y a le péché, et 90% du, la souffrance dans le monde vient du péché. Tous ces, on en reparlera dans une autre émission, mais tous ces péchés d'égoïsme, d'impureté, d'orgueil, d'arrogance, d'injustice.
Voilà, en tout cas, donc c'est Satan, selon la tradition chrétienne, c'est donc un ange, un archange déchu, et la tradition croit, les chrétiens croient à l'existence de Satan, même s'ils ne le mettent pas du tout sur le même plan que Dieu ou que Jésus. Enfin, c'est une précision nécessaire.
Et donc, c'est très précisé dans l'Évangile, je pars au désert, pas seulement pour vivre un temps d'intimité avec son Père, évidemment, mais pour qu'on et on retrouve Jésus face à face en duel au jardin des Oliviers, voyez, où il est face au démon dont il veut nous sauver, nous arracher, nous libérer.
Voilà. Donc la spécificité chrétienne, c'est donc de suivre Jésus dans ce combat, vous entendez?
Oui, voilà. Alors franchement, l'aspect de combat, parce que c'est une arme redoutable. Pourquoi? Parce que justement, c'est le jeûne qui nous libère, qui nous rend libres de tant et tant d'esclavage intérieur dont nous allons un peu parler maintenant, enfin tout à l'heure. Voilà, il nous rend libres. C'est une œuvre de libération de nos instincts et de nos addictions.
Vous dites entre autres que les exorcistes, en fait, ont l'habitude de jeûner, voire même que pour les exorcistes, en fait, c'est une nécessité de jeûner. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est un exorciste, quelle est sa mission, et puis dire pourquoi c'est si important.
Parce que ça rend beaucoup plus puissant sur l'esprit du mal. Et surtout que c'est des actes d'amour. Alors tout ce qui relève de l'amour, il en a horreur. On fait ça par pur amour des gens qu'on veut sauver, et puis l'amour de nous-mêmes. On veut être des gens heureux et libres. Et donc nous ne voulons pas subir des addictions qui nous enchaînent, voyez.
Donc on rentre dans le combat de Jésus, et donc il y a un certain nombre d'éléments clés qui font évidemment la spécificité du jeûne chrétien. Vous allez nous préciser, donc c'est la prière, la parole de Dieu, etc.
Mais il y a beaucoup d'autres aspects du jeûne spécifiquement chrétien. Il y a le lien avec la parole de Dieu, justement, et sa réponse de Jésus au désert. Quand Satan le pousse à transformer les petites pierres en petits pains, ce qui serait tout à fait délicieux, n'est-ce pas? Voilà, pour son petit déj le matin, voilà chaque pierre qui devient un petit croissant succulent. Et sa réponse, c'est justement que l'homme se nourrit de la parole de Dieu. Et donc, normalement, celui que jeûne, par exemple, le temps qu'il épargne en n'ayant pas un repas, s'il renonce au repas de midi le vendredi, il gagne une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, il le donne à la prière et à la parole de Dieu. C'est pour avoir faim de la parole, qui me nourrit. La parole est une vraie nourriture, oui. Aussi, la volonté du Père. Dans Jean chapitre 4, Jésus dit, Jésus est en train de jeûner, on lui apporte son pique-nique, et il dit à ses apôtres, j'ai une autre nourriture, etc. Je me nourris de la volonté de mon Père. Voilà. Et donc le jeûne, ici je me limite encore au jeûne de nourriture, nous verrons les autres jeûnes, mais le jeûne de nourriture implique cette nourriture de la parole et de la volonté du Père. Ensuite, ça nous met tout spécialement en connexion étroite, j'oserais dire, avec tous ceux qui ont matériellement, effectivement, faim, qui quelquefois en meurent, tant d'enfants qui meurent de faim, dans tant de pays du monde. Et donc je vais éprouver un tout petit peu, c'est minime, mais tout de même, ce que c'est qu'avoir faim, d'avoir le ventre creux, en pensant à tous ces jeunes, ces enfants qui ont le ventre creux, pas seulement un vendredi en passant, mais...
On sait qu'il y a 1 milliard de personnes aujourd'hui qui vivent dans des bidonvilles, par
exemple.
Mais
oui, voilà. Et comme une des conséquences du jeûne, c'est d'offrir l'équivalent, et si possible plus, à des œuvres qui donnent de la nourriture à ceux qui ont faim. C'est-à-dire quand, par exemple, pendant tout le carême, je ne vais pas prendre de dessert, ou pas prendre d'alcool, pas prendre de tabac, etc. Je fais une bonne économie, je gagne. Je vois notre école, à la fin du carême, on a gagné, par exemple, 2000 euros en ne prenant pas de dessert, etc. Et ça, on ne l'envoie pas à n'importe qui, mais à des œuvres de secours catholique, autre chose, qui s'occupe d'apporter de la nourriture. Donc c'est très beau, je me prive de nourriture, et je sais que, grâce à ça, je vais pouvoir matériellement, financièrement, aider des enfants à ne pas mourir de faim. Vous voyez, il ne faut jamais oublier cette connexion sociale, qui est absolument magnifique, vous voyez. Et voilà.
Alors le dernier point, ce serait donc le lien évidemment avec l'Eucharistie. Donc en gros, vous nous avez dit donc que le jeûne était une introduction, en fait, on suit Jésus dans son combat spirituel.
Oui, tout à fait.
Et on le prolonge aujourd'hui. L'image que vous prenez, enfin pas l'image, la réalité des exorcistes est pour ça très très frappant. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, que les exorcistes, c'est ceux qui ont, par délégation de l'évêque, la responsabilité d'exercer donc un ministère. Voilà. Comment on appelle ça en fait ? Un ministère d'exorcisme, voilà.
Chasser les démons.
Voilà, l'évêque ayant autorité par délai, étant successeur des apôtres à autorité donc sur les démons, et donc le prêtre exorciste par délégation également. Et vous nous avez dit donc c'est aussi une manière quelque part d'élargir notre cœur aux réalités du monde. Et puis d'être sensible à la souffrance des autres. Alors dernier point sur lequel vous voulez insister, peut-être qu'avant qu'on fasse une première pause, c'est le lien évident avec l'Eucharistie qui fait que c'est un jeûne spécifiquement chrétien.
Voilà, parce que c'est la grande tradition, très très vivante encore en Orient, c'est le jeûne eucharistique. C'est-à-dire que tu ne manges pas avant la communion, avant la messe. En Orient, il faut n'avoir rien mangé depuis la veille au soir, ou au moins depuis minuit. C'était comme ça, d'ailleurs, dans notre tradition latine. C'est pour ça que les messes étaient toujours célébrées le matin, pour ne pas être complètement jeûne jusqu'au soir. Voilà. Et l'idée, c'est de vraiment ressentir l'Eucharistie, d'en avoir la faim. Vous voyez, par exemple, quand il multiplie les pains, il multiplie les pains, il nourrit la foule, quand tout le monde vraiment est affamé. Si je les renvoie maintenant, ils vont s'évanouir parce qu'ils sont là depuis 3 jours à l'écouter. Et pour montrer que c'est le pain de la vie, le pain qui fait vivre. On le voit concrètement chez certains mystiques. Marthe Robin a vécu 50 ans.
Alors Marthe Robin, il faut juste préciser pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est donc une grande mystique française qui a vécu donc au siècle dernier. Et qui a vécu toute une partie de sa vie en ne se nourrissant que d'Eucharistie.
Voilà, elle ne vivait que de l'Eucharistie, ce qui était médicalement absolument inexplicable, comme un miracle permanent où Jésus voulait montrer que son pain, c'est le pain de la vie, qui donne la vie, même la vie matériellement. Et donc l'idée d'avoir faim de l'Eucharistie, c'est quelque chose de magnifique. Je prends un petit exemple personnel. Par exemple, quand je suis en carême, en ermitage, en solitude, j'essaie comme je peux, disons, de faire un peu le jeûne type ramadan, c'est-à-dire de manger que le soir, mais en célébrant la messe avant. Et bien, je vous assure que j'ai une faim matérielle de l'hostie. J'attends avec impatience la communion eucharistique, c'est la première chose que je mange de la journée, ou à peu près. Et du coup, c'est formidable. On a faim de... Et c'est l'Eucharistie qui rompt le jeûne. Vous voyez que, comme on dit en anglais, breakfast, la rupture du jeûne, fast, break, fast, voilà, c'est le repas qui rompt le jeûne. Et c'est pour ça que les 2 jours traditionnels pour le jeûne, le mercredi et vendredi, sont mercredi, c'est la préparation à l'Eucharistie du jeudi, c'est le grand jour de l'Eucharistie, et vendredi, c'est l'action de grâce pour l'Eucharistie reçue la veille. Donc c'est cette connexion très très belle entre les deux.
Voilà, on va faire une première pause musicale. Merci beaucoup Père Daniel Ange. Je rappelle que nous sommes donc depuis Pratelon, donc où se trouve l'école Jeunesse Lumière que vous avez fondée dans le diocèse d'Albi. On fait une première pause musicale et on vous retrouve tout de suite après pour continuer à parler du jeûne.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, donc depuis Pratelon, donc dans le diocèse d'Albi, dans les montagnes, où nous sommes donc avec le Père Daniel Ange. Le Père Daniel Ange, je rappelle, si vous nous prenez en cours de route, qui est un ancien moine, ermite, et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, fondateur de l'école Jeunesse Lumière, école d'évangélisation. Cette deuxième émission donc d'une série de carême avec lui, on le remercie beaucoup de nous accueillir jusque dans une chapelle orientale à l'école Jeunesse Lumière où il nous fait l'amitié de recevoir Radio Présence pour vous, chers auditeurs. Cette deuxième émission donc sur le jeûne. Alors, dans la première partie, vous nous avez expliqué vous avez fait écho en fait au fait que le jeûne est à la mode, que parfois même le Seigneur se sert en fait des modes qu'il y a dans le monde quelque part pour nous rappeler l'importance du jeûne, enfin l'importance de certaines choses, en l'occurrence du jeûne. Et puis vous nous avez dit quelles étaient les spécificités du jeûne chrétien, cette manière de rentrer, pour faire très court, hein, dans le combat de Jésus, combat spirituel bien réel. Dans cette deuxième partie, donc, avec vous, je voulais voir donc, les différents jeûnes qui peuvent exister. Alors, le premier auquel on pense, évidemment, c'est tout simplement le jeûne au pain et à l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste ?
Alors, effectivement,
on boit de l'eau et on mange du pain, c'est tout.
Voilà, ça c'est le jeûne de la nourriture, qui est un des premiers jeûnes, parce que ça touche à notre instinct de survie quelque part. Donc ça demande une forte maîtrise de soi pour se passer d'un repas. Et donc à Medjugorje...
Alors Medjugorje, il faut préciser ce que c'est. Donc c'est un lieu supposé d'apparition de la Vierge Marie.
Et qui draine des millions
de pèlerins. En Bosnie-Herzégovine depuis de nombreuses années maintenant.
C'est le plus grand pèlerinage international de la chrétienté en ce moment. Et donc il y a cette insistance sur le jeûne, mais atténué, parce que ce n'est pas ce qui privé complètement. Normalement, le jeûne complet, c'est rien manger du tout, juste boire. Et là, c'est un peu atténué avec du pain. Mais il faut dire que c'est du bon pain croate, là-bas, du pain entier. Ce n'est pas l'espèce de petite baguette toute blanche qui n'ont très peu de valeur nutritive. Donc c'est du bon pain avec de l'eau. Donc c'est un jeûne atténué, mais c'est très bien, jusqu'au soir. Voilà, donc matin, et si on a chaud, et pardon, si on a froid, ça peut être une boisson chaude ou une petite soupe, etc.
Donc ça, c'est le jeûne au pain et à l'eau que l'Église recommande au moins pour le mercredi décembre, c'est ça, et le vendredi saint.
Oui, au moins, minimum.
Et que vous incitez, enfin vous dites qu'il y a d'autres traditions, vous nous avez dit en première partie, d'autres traditions, entre autres les traditions
orientales. Mais normalement, c'est chaque vendredi. Et les moines, ils ont leur grand jeûne qui commence le 14 septembre jusqu'à Pâques, voilà. Mais disons, nous à Jeunesse-le-Bien, c'est le vendredi où les jeunes ont une journée de désert, de plein silence, où on met juste quelques petites choses sur la table et chacun vient et prend chacun ce qu'il veut, ce qu'il peut.
Et peut-être pour illustration, est-ce qu'ils s'y plient de bon cœur ? Est-ce que c'est difficile pour eux au début ?
C'est ça qui est essentiel, c'est que ce soit par amour, de bon cœur. On le fait parce qu'on en sait les fruits. Ce n'est pas une contrainte, une obligation. Mais tout de même, on s'y met, ça demande un peu de volonté. Donc c'est un bel acte de maîtrise de soi.
Donc tous les vendredis,
de liberté,
vos jeûnes sont au pain et à l'eau.
Oui, ou un peu de soupe. Un petit peu. Chacun prend, suivant ses besoins, ses capacités, pour ne pas s'évanouir. Voilà.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent peut-être ils comprennent assez rapidement les fruits que ça porte. Une journée de jeûne suffit pour eux de comprendre.
Sens. Oui, mais dès que tu comprends le sens, la signification et tous les fruits que ça porte, tu as envie. Voilà. Non, donc ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas de l'ordre d'une obligation. C'est de l'ordre de l'amour. Finalement.
En tout cas, ils rentrent vite dedans. Hein, vous entendez.
Et puis si tu fais ça sans amour, ça n'a aucun prix.
Alors, il y a d'autres jeûnes dont vous voulez nous parler. Le premier, le jeûne suivant dont vous voulez nous parler, c'est le jeûne qui consiste à essayer de grandir dans la chasteté. Alors peut-être qu'il faut rappeler ce que c'est que la chasteté.
Voilà.
Et puis expliquez-nous peut-être de quoi peut-on se priver pour rentrer dans cette chasteté.
Alors justement, la chasteté est cette libération, cette liberté, cet équivalent de liberté par rapport à nos instincts sexuels qui sont tellement, tellement forts, mais dont on peut devenir complètement esclave. Et c'est toutes les aberrations, les abominations de tout le commerce sexuel international, la prostitution, etc., etc., etc. Quand c'est une sexualité qui n'a aucune limite, aucune assaise, ça aboutit à toutes les horreurs qu'on connaît aujourd'hui. C'est absolument épouvantable. C'est pas vraiment d'en parler ici, mais la chasteté, c'est justement...
Donc en l'occurrence, ça serait se priver de quoi pour grandir dans cette chasteté ? C'est faire attention aux choses que l'on regarde, c'est...
Oui, ça implique évidemment la maîtrise du regard par rapport à tout ce porno qui est déversé comme une poubelle sur tous nos petits écrans, sur nos iPods, etc. Donc c'est déjà cette maîtrise du regard, c'est la maîtrise de la sexualité, c'est-à-dire baliser notre sexualité pour ne pas qu'elle devienne sauvage et nous entraîne dans un esclavage dont on n'arrive pas à sortir. Et je vois aujourd'hui, c'est vraiment une chose des plus belles qui se passe, c'est que face à toutes les dérives de la sexualité qui mènent jusqu'au meurtre sexuel, etc., etc., c'est de voir ces jeunes par millions dans le monde et qui vont faire des promesses publiques de n'avoir pas de rapport sexuel avant leur mariage, avant l'unique conjoint de leur vie. C'est les petits héros d'aujourd'hui. Je vois à Washington, aux États-Unis, ce sont les groupes évangéliques qui ont commencé avec le grand mouvement TWA, True Love, TLW, True Love Waits, le vrai amour attend, qui ont été déposés devant la Maison Blanche récemment, 320 000 petites promesses de chasteté avec mail, téléphone et tout, et qui représentaient, déposées par 20 000 délégués de toutes les grandes villes des États-Unis. Moi, j'ai vu au Brésil, dans des stades entiers, des stades de 60 000 jeunes, lors du carnaval, ces milliers de jeunes descendants des gradins faisant une promesse de chasteté dans le sens que je viens de dire. Je vois à Bujumbura, au Burundi, où nous avons 4 000 jeunes qui ont choisi le nom de Jeunesse Lumière, justement, eh bien, ils stupéfient tout le monde parce que dans leur paroisse, dans les 14 paroisses de la capitale, ils renouvellent tous les 6 mois une promesse de n'avoir pas de rapport sexuel avant le mariage et de ne jamais céder au harcèlement sexuel de la part des professeurs, quelquefois, ou des employeurs, comme condition pour leur donner du travail ou faire réussir leur examen. Si tu ne couches pas avec moi, je te fais rater ton examen. Et je connais des jeunes qui sont au chômage, qui ne trouveront plus jamais du travail, parce qu'ils ont refusé de payer ce prix. Non, je ne couche pas avec toi, tant pis si je perds mon travail. Ça, c'est les vrais héros d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Moi qui circule dans 40 pays différents, et j'ai vu ces groupes de jeunes dans tous les pays, n'est-ce pas? Voilà, et parce qu'ils ont compris que la chasteté, c'est ce qui permet à l'amour, justement, de grandir et de s'approfondir. Comme la stratosphère terrestre, la couche d'ozone, permet au soleil de donner la vie sans transformer toute la planète en Sahara. Ça permet, voilà, parce qu'il y a cette couche protectrice, qui c'est la protection de l'amour, vous voyez, protection. J'ai écrit beaucoup de livres là-dessus, donc vous y référez. Et donc, c'est une histoire d'être vraiment libre dans l'amour, voilà, et de respecter l'autre. D'abord, de viser le cœur à cœur, l'âme à l'âme, avant le corps à corps, pour que le rapport sexuel soit vraiment l'expression d'un amour, voilà, d'un amour du cœur, de l'âme, voilà. Parce qu'un rapport sexuel implique toujours l'âme du partenaire et ta propre âme, même si tu ne penses pas. C'est un rapport aussi spirituel que physique, vous voyez. Et donc, la chasteté, c'est un jeûne, je veux dire, un jeûne de la chair. Et beaucoup de personnes mariées, par exemple, pendant tout le carême, ou le vendredi, pendant l'année, n'ont pas de rapport sexuel. Ce jeûne, voilà. Et donc, ça permet un amour beaucoup plus délicat. Parce que puisque je ne peux pas avoir recours à ce langage le plus fort qui soit, je vais multiplier les petites attentions et les petites délicatesses. C'est ce qu'on voit entre fiancés qui attendent le mariage pour le rapport sexuel. Eh bien, ils ont une finesse, une délicatesse entre eux, mais quelque chose de bouleversant, parce qu'ils cherchent d'autres petits moyens pour exprimer la tendresse, vous voyez. Et ça, je peux donner tellement d'exemples, mais il n'y a pas le temps.
Il n'y a pas le temps. Alors du coup,
il n'y a pas le temps ici.
Voilà. Il y a un autre type de jeûne.
Mais Saint Paul dit que ça doit toujours être d'un commun accord entre époux. Parce qu'il parle de cette abstinence entre époux. Eh bien, il dit que ça doit être d'un plein commun accord. Si un des époux n'est pas d'accord, il ne faut pas le faire. Il faut que les deux y consentent amoureusement, j'oserais dire. Et les fruits en sont magnifiques.
Alors l'autre jeûne dont vous vouliez parler, c'est donc un jeûne qui consiste à essayer d'installer dans sa vie des temps de silence.
Voilà.
C'est quelque chose aussi que vous essayez de vivre ici à Jeunesse Lumière. Alors, peut-être que vous pouvez commencer par ça, pas nous dire qu'est-ce que vous essayez de donner à vivre à vos jeunes, et puis quel écho ça peut trouver dans la vie de tout à chacun.
Voilà. Alors, dans une société où il y a un tchatch continuel, du bruit continuel, on est vraiment harassé par le bruit tout le temps, partout, non-stop, etc. Voilà. Alors, pour Jeunesse Lumière, nous avons d'abord des plages de silence, d'abord dans la maison, il y a des lieux où on ne parle absolument pas, les couloirs, soit des frères, soit des saints, le couloir sous la chapelle, parce qu'il y a un choix qui prie à la chapelle, il y a d'abord des zones de silence, déjà, tout le temps, voilà, de manière permanente, voilà. Surtout il y en a qui font peut-être la sieste après le repas pour respecter, c'est une question de respect de l'autre. Et puis, nous avons chaque vendredi une journée de silence total, comme dans une chartreuse. Ils peuvent partir dans la montagne, la Bible sous la main, passer de longues heures d'adoration, rester dans leur champ, peu importe, mais c'est un silence complet jusqu'au soir. Et là, c'est vraiment de l'ordre d'une libération. Par exemple, je vois au niveau agression du bruit. De moins en moins de jeunes sont capables de se passer de musique à haut décibel, à tel point qu'il y a beaucoup de surdité chez les jeunes, parce que c'est décibel à fond la caisse, voilà, surtout avec le rock, le métal, etc., etc. Nous, par exemple, tous les services, la cuisine, la lingerie, le ménage, tout ça, se fait en silence. Voilà. Et quand ils arrivent, ça c'est très dur, parce qu'ils ont envie de mettre du métal à fond la caisse que tu entends à 300 mètres, comme dans une boîte de nuit à la limite. Donc là déjà, c'est toute une assaise d'apprendre à être présent au Seigneur, à soi-même et aux autres, dans ce beau silence qui est tellement reposant. Parce qu'en fait, le bruit, ça te stresse, ça tape sur les nerfs. Il y a des gens qui se sont suicidés de stress avec des motos à minuit qui te réveillent, etc. Voilà. Il y a un très beau livre de Cardinal Sarah qui vient de paraître sur le silence. Donc là aussi, c'est un jeûne par rapport, c'est un jeûne et des oreilles, j'oserais dire, par rapport à la musique. Alors ça touche par exemple à la télévision. De moins en moins de personnes sont capables de maîtriser la télé. Il y en a qui passent 5-6 heures par jour. On a fait récemment une expérience avec, je crois, une cinquantaine de volontaires où on a dit essayer de passer, d'avoir pas de télé pendant une semaine. Et on a mis les scellés sur leur télé pour contrôler. Eh bien, il y en a qui n'ont pas tenu une seule journée, qui ont cassé les scellés parce que ils étaient tellement addicts qu'ils se sentaient en manque, comme on dit, pour la drogue. D'autres ont tenu 2, 3, 4 jours, et très peu ceux qui ont tenu une semaine, en disant que ça a été un combat incroyable, incroyable. Oui. Donc c'est dire, parce que le but de tout ça, c'est la libération, voilà, de tout ce dont nous sommes addicts. Voilà. Par exemple, la télé, il y a aussi l'ordi. On est de plus en plus maintenant complètement scotché par le virtuel.
Alors l'ordinateur, parfois on est contraint par son travail, mais j'imagine que...
Mais oui, non, bien sûr.
Parler à l'usage personnel.
C'est... Ah non, mais c'est évident. Mais je veux dire, ça arrive à des telles proportions que maintenant vous avez des pathologies dues au virtuel qui sont tellement débranchées du réel qu'aux États-Unis, il y a maintenant des cliniques et des médecins spécialisés dans la désintoxication, si on peut dire, par rapport au monde virtuel. Par exemple, quand vous avez, on voit ça dans les procès d'enfants qui ont tué quelqu'un. Ils ont tué quelqu'un, voilà. Parce qu'à force de voir toutes ces tueries dans les jeux, etc., où tu gagnes le maximum de points suivant le nombre de personnes que tu as tuées, ces enfants s'imaginent que c'est comme dans leur jeu virtuel où la personne reprend vie. Ils sont tout étonnés qu'après avoir tué à un coup de revolver, la personne ne se relève pas. Et donc c'est devenu une chose extrêmement grave, parce que ça touche tout simplement à l'inversion du réel. Et tu crois que le réel est comme le virtuel que tu as vu. Et là, le jeûne, justement, c'est-à-dire la maîtrise de cet instrument formidable, c'est extrêmement important. Je vois, par exemple, dans les bus, partout dans la rue, les jeunes qui vont aller à l'école marchent avec leurs oreillettes, à écouter, ou bien sont en train de téléphoner sur leur portable. Ils ne peuvent plus s'en passer, tout le temps. Toutes les 3 minutes, il faut qu'ils appellent quelqu'un, etc. Ils ne peuvent plus s'en passer. Nous, justement, pour faire cette libération, on a demandé à Jeunesse Lumière qu'on se serve du portable que le dimanche, sauf urgence, bien sûr. La même chose pour les mails, que le dimanche.
Parfois dans certains établissements scolaires, c'est les parents en fait, qui ne souhaitent pas que que les portables soient éteints tout au long de la journée parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir joindre leurs enfants. Je me permets de rapporter cette anecdote que j'ai entendue.
C'est assez effrayant, parce que ça devient vraiment une drogue. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'en passer, c'est ça. Et par exemple, nous demandons aux jeunes de ne pas prendre leurs notes de cours sur ordi, pour qu'ils apprennent à écrire. Il y en a qui ne savent même plus écrire maintenant, ou des fautes d'orthographe incroyables. Par exemple, quelque chose qui disparaît complètement, c'est les lettres. Les lettres avec enveloppe. Ça n'existe presque plus. C'est bientôt dans les musées qu'on va expliquer comment nos ancêtres communiquaient avec quelque chose qui s'appelle une enveloppe, un truc qui s'appelait un timbre, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout se fait par mail, bon, très bien, c'est ultra rapide, mais tu n'as plus la personnalisation de l'écriture de la personne, du choix d'une petite carte postale, etc. Ça déshumanise. Et donc, quand tu contrôles ces merveilleux instruments, c'est pas du tout pour interdire tout ça, mais simplement c'est les maîtriser, de manière à ce qu'on n'en soit pas captivé, j'aime bien ce mot captivé, par exemple qu'on est trop scotché au petit écran, eh bien on y est captivé, le sens du captif, tu vois, il y a une sorte de séduction, c'est de l'ordre de la séduction, c'est tellement passionnant une recherche sur Google, etc., mais ça vous prend tout entier, et c'est chronophage, on y passe des heures.
Alors peut-être avant qu'on aborde le dernier type de jeunes qu'on pourrait avoir, qui sont les jeunes à d'autres addictions, même si vous en avez décrit certaines, est-ce que vous pouvez nous redire peut-être à la vertu, pour essayer de bien comprendre tout ça.
Oui.
Autant pour la chasteté, on a compris que ça fait grandir en liberté dans la relation. Pour le silence, est-ce que vous pouvez dire un peu les fruits du silence, vous qui êtes habitué au silence.
Les fruits du silence, c'est d'abord que ça te permet d'être présent à toi-même. Sinon, tu es tout le temps extériorisé dans le bruit que tu entends, dans le chat, etc. Et là, tu peux comme rentrer dans ton cœur. Tu peux jouir très simplement des choses, du toucher, de la vue de la création, etc. La nature, c'est comme une clinique ophtalmique, si tu veux, qui guérit nos yeux, par exemple, de nos regards tellement pollués par la pornographie, etc. Alors là, le jeûne, la pornographie, c'est vital, c'est lié à la chasteté. Mais il y a aussi, par exemple, on n'en a pas parlé, mais le tabac.
Alors attendez, on y viendra juste sur le silence. Donc
oui,
pour finir,
le silence,
donc voilà. Le sens du silence, c'est que ça permet donc de se réapproprier quelque part sa vie.
Tout à fait.
Et puis on imagine qu'en fait, on ne peut pas entendre Dieu si on ne fait pas silence de temps en temps. Enfin,
voilà,
en tout cas, c'est dans l'écriture, dans Dieu est une brise légère.
Voilà, bien sûr, il ne parle que dans le silence d'une certaine manière. Voilà. Et c'est pour ça que pendant une retraite, on garde le silence, etc.
J'ai dit ça parce qu'une fois, je vous avais croisé en d'autres circonstances et vous aviez, je vous avais posé la question suivante, pardon, de raconter ma vie auprès des auditeurs, mais c'est la circonstance qui, enfin, c'est, comment dire, vous allez voir, je pense que ça a quelque intérêt. Je vous avais présenté un jeune, pardon, de raconter ma vie, je vous avais dit qu'il voulait rencontrer Jésus. Et vous aviez fait cette remarque.
Oui.
Vous avez dit, en fait, pour rencontrer Jésus, il faut descendre tout au fond de son cœur,
oui,
et entre autres,
oui,
il faut
oui,
pour ça
oui,
du silence. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, rencontrer le Christ s'il n'y a pas de silence.
C'est ça, oui, tout à fait. Et puis l'attention aux petites choses. Vous voyez, si à JL, on faisait le ménage, bon, en écoutant peut-être des très beaux chants, etc., tu fais attention aux chants et tout ça, et tu ne fais pas attention aux petites choses que tu dois faire. Il y a le film Grand Silence qui a eu un succès fou sur Chartreuse, où il n'y a aucune musique de fond, tu entends juste les petits bruits naturels, le petit oiseau qui chante, le chat qui miaule, le bruit de la fourchette sur l'assiette, le bruit des pas dans les feuilles, tous ces merveilleux petits bruits naturels qui sont comme une symphonie, et que tu entends de moins en moins. C'est un petit peu comme dans un autre ordre, celui du regard. Dans les villes où on est agressé par toutes les affiches lumineuses, etc., tu ne peux pas voir les étoiles. Aux Champs-Élysées, tu es incapable de voir les étoiles. Tu ne les vois pas, même si elles sont ultra brillantes, tu vois, tu ne sais plus. Tu te débranches du contact avec la nature. Alors là, dans les villes, on n'y est pour rien, on ne peut pas changer quoi que ce soit. Mais c'est pour ça qu'on a tellement besoin de vacances dans la création, où enfin, tu peux, une nuit d'été, contempler les constellations, etc.
Alors, pour finir, donc, oui. Le jeûne des addictions, vous en avez cité quelques-unes. En l'occurrence, vous avez parlé, entre autres, de la télévision ou de l'ordinateur. Vous vouliez en parler de deux autres pour finir avant qu'on fasse une deuxième pause.
Eh ben, c'est deux qui sont une véritable intoxication, qui peut être mortelle d'ailleurs, du tabac et de l'alcool. Que de cancers dus au tabac, que de morts par consommation. Et l'alcool, j'en parle pas, que d'accidents dus à l'alcool. Donc, ce sont des addictions gravissimes. Pour soi et pour les autres, n'a pas le droit de détruire sa santé. Et là, justement, les temps de carême, c'est des temps bénis, parce qu'on reçoit une grâce spéciale pour ça, pour jeûner de tabac et d'alcool. Et quelquefois, c'est définitif, tu ne rechutes plus après. Ou bien, toutes les drogues, on ne va pas faire toute la liste de toutes les drogues, mais tout le monde sait à quel point un jeune peut être bousillé par des drogues, il ne peut plus s'en passer. C'est pour ça que la pornographie est appelée la drogue de l'imaginaire. Et donc le jeûne, c'est vraiment la libération de toutes ces addictions. Voilà. Pour que nous soyons libres. Bien sûr, je peux fumer librement de temps en temps, mais si tu veux, c'est quand ça devient que tu ne peux plus t'en passer. Voilà. Donc tu n'es plus maître de toi. Tu es un esclave. Et le jeûne nous libère de tout ça. Mais c'est presque impossible sans la grâce du Seigneur, sans la prière. Humainement, on peut y arriver, mais difficilement, vous voyez.
Voilà, donc en tout cas, voilà. Beaucoup de pistes de jeûne données par le Père Daniel Ange. On va faire une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve pour clore cette émission, la deuxième donc, de cette série de carême sur le jeûne.
Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin donc en direct de Pratelon, donc dans le diocèse d'Albi, dans les montagnes. Nous sommes donc avec le père Daniel Ange, donc fondateur donc de l'école Jeunesse Lumière, école internationale d'évangélisation, pour cette deuxième émission de notre série de carême sur aujourd'hui le jeûne. Peut-être père Daniel Ange, si je dois résumer à très gros traits, je m'y essaye hein, pour les auditeurs. Et essayer de faire le lien entre les deux premières parties de cette émission. Vous nous avez expliqué en fait à quel point le jeûne spécifiquement chrétien est une manière de rentrer dans le grand combat spirituel qui a été celui du Christ. Et dans la deuxième partie, vous nous avez parlé d'un certain nombre de réalités, parfois très prosaïques, où vous nous incitiez à essayer de nous priver pour des bonnes raisons, on l'a compris, particulièrement quand ce sont des addictions graves, évidemment ça ne demande pas plus d'explications. Quel lien vous pouvez faire et comment éclairer ces petits combats ou ces grands combats, par exemple pour des mauvaises habitudes, vous parliez du regard, vous parliez d'Internet, ou alors pour des grandes addictions, en quoi ce combat a forcément quelque chose de spirituel? Quel lien vous pourriez faire entre les deux?
Eh bien, s'il n'y a pas l'aspect spirituel que j'ai évoqué au
mais
début...
Mais tous ces combats sont spirituels, en fait.
Oui, mais on ne peut pas mener un combat juste pour le combat. On n'est pas motivé s'il n'y a pas cette grande dimension spirituelle. D'abord, de vivre tout cela, là je parle pour des chrétiens plus spécifiquement, de vivre avec Jésus, avec tous les saints qui nous ont précédés, et toujours en envoyant la signification profonde. Comme je disais, c'est surtout une question de maîtrise de soi, donc de libération, donc de liberté, donc d'amour. Voilà. Et s'il n'y a pas cet aspect spirituel, ça doit être presque impossible. Je ne vois pas comment on peut mener des combats aussi rudes pour cesser de fumer, cesser de boire, etc. La preuve, c'est toutes les cures de désintoxication qui souvent n'arrivent à rien. Il y a des récidives, parce qu'il n'y a pas la dimension spirituelle. Je prends l'exemple, par exemple, pour les drogues dures, des maisons fondées par sœur Elvira.
Tiennacolo.
Tiennacolo, il y en a à Lourdes d'ailleurs.
Il y a donc une maison à Lourdes, c'est donc une maison qui accueille des jeunes qui ont connu des addictions graves.
Mais qui sont déjà très très addicts, soit par la prostitution, soit par toutes les drogues possibles et imaginables aujourd'hui. Et donc c'est un itinéraire, un cheminement très très exigeant. Ça implique beaucoup de travail manuel, le retour à la terre, le travail, etc., etc. On est tout le temps suivi, aidé, soutenu, conforté par un ancien qui en est sorti, donc qui sait ce que c'est que les crises de manque qui peuvent être terribles, etc. Mais il y a toujours les gens spirituels. On leur demande, par exemple, qu'ils soient chrétiens ou pas, de venir à la chapelle pour les temps de prière, qu'ils croient ou pas. Voilà. Et il y a beaucoup qui deviennent croyants, et comme cela. Parce que Sœur Elvira fait l'expérience, justement, que sans ces dimensions spirituelles, ça ne tient pas, ça ne dure pas, ou très rarement. Et c'est un succès, je veux dire, un nombre de non-récidivistes, après 4 ans de cette thérapie, si je puis dire, il n'y a près aucun qui soit retombé, alors que dans toutes les autres cliniques ou maisons de désintoxication, ça rechute très facilement après.
Mais alors pour le grand public, j'ai entendu votre précision, public, oui. Mais ma question, en fait, il y avait un deuxième tiroir, c'est que... Oui. Pour les gens qui nous écouteraient, en fait, qui ne sont pas forcément des grands familiers de la vie spirituelle,
oui.
Tous les combats qu'on mène dans nos vies, justement, oui. pour grandir en liberté tout et en amour, ont en fait une dimension spirituelle. C'est un combat spirituel, tout ça ?
Mais je pense, parce que c'est, comme je l'ai dit, ce n'est pas une dimension spirituelle, d'abord, tu ne vas pas être motivé. Et puis, c'est encore beaucoup plus dur, tu comprends, beaucoup plus dur. Tandis que quand tu pries, quand tu supplies le Seigneur de t'aider, tu n'es plus seul, il combat avec toi, tu vois.
Alors, il y a une chose dont vous vouliez nous parler aussi, peut-être en fin de cette émission, c'est au-delà de ces efforts de carême, c'est un peu le terme habituel, oui. en tout cas, de ces efforts de grandir en liberté, si on vous a bien compris, vous aviez le désir de nous parler un peu de ce qu'on appelle un peu l'esprit de sacrifice. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit de sacrifice ? Peut-être vous pouvez nous expliquer ce que dit la tradition de cet esprit de sacrifice, oui. et après, comment ça peut se décliner ?
Alors, je partais...
Comment bien le comprendre, en fait ?
Voilà, c'est très, très difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre. C'est participer à la souffrance, à la passion de Jésus, qui n'a pas voulu tout souffrir tout seul, qui nous juge tellement capable et tellement digne de lui, qui nous associe d'une mystérieuse manière à sa passion pour sauver le monde avec lui. Il ne veut pas le sauver tout seul. Quand je dis sauver, ça veut dire glorifier le monde, rendre le bonheur du paradis aux gens, ouvrir la porte du ciel, le royaume éternel, etc. Voilà. Et là, il y a deux grandes avenues, si je puis dire. Il y a toutes les souffrances, les épreuves, les difficultés que nous ne choisissons pas, qui sont imposées par la vie, telle maladie, tel accident, tel deuil, etc. Nous n'y sommes pour rien. Enfin, disons, ce n'est pas nous qui provoquons, ce n'est pas nous qui choisissons, évidemment. Alors, il y a deux solutions, ou bien je les subis passivement, souvent dans la révolte, l'amertume, l'erreur, le ressentiment, j'en veux à telle personne qui m'a calomnié, etc., etc.
Ou j'en veux à Dieu aussi.
Comment ?
Ou j'en veux
oui,
à
exactement,
Dieu aussi.
On pense que c'est Dieu le coupable de tout ça, alors qu'il en est complètement innocent et qu'il est le premier à souffrir, donc on en veut à Dieu, etc. Voilà. Alors, quand on subit comme ça dans la révolte, c'est comme une blessure qui s'envenime, qui a du pu, et donc t'en souffres encore plus, ça donne la fièvre à tout le corps. Alors que la souffrance, alors que la blessure peut être désinfectée, comme je l'ai dit ailleurs, justement par le pardon des personnes qui t'ont blessé, et même les maladies, les grandes épreuves, tu peux, mais ça c'est vraiment le spécifique des disciples de Jésus, tu peux offrir cette souffrance en union à la passion de Jésus, pour telle intention, et surtout pour sauver le monde, pour apporter la paix dans le monde, pour arrêter tant d'horreurs, pour arrêter les attentats, pour etc., etc.
Alors juste,
c'est cette puissance, ce pouvoir, je dirais salvifique, c'est un mot un peu technique si vous voulez, mais ça veut dire que nous pouvons faire quelque chose en offrant notre souffrance. Il y a une sorte de puissance qui est donnée. Et c'est pour que c'est la prière qui se joint à une souffrance offerte, ça décuple la puissance de la prière parce que Dieu, il voit tout de suite la passion de son fils Jésus en nous. Mais ça demande la foi. C'est inexplicable humainement, tu vois. Et alors, la seconde...
Attends, excusez-moi, je vous arrête juste sur ce point pour essayer de bien comprendre et une fois de plus se mettre à la place aussi des auditeurs pour qui c'est difficile. Pour préciser votre pensée, pourquoi Dieu aurait-il besoin de nos souffrances.
Ce n'est pas un besoin de nos souffrances. C'est la grâce, le cadeau, le privilège de pouvoir participer à sa propre souffrance pour nous arracher au mal et nous ouvrir le royaume. C'est un cadeau extraordinaire qu'il nous fait, tu comprends ? C'est comme le martyr qui est le sommet de la violence d'un côté et le sommet de l'amour de l'autre. Quand tu es pour le seul amour de Jésus ou pour une valeur qui se rapporte à l'évangile, pour la chasteté, pour la justice sociale, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de catégories de martyrs. Et le martyr, c'est le sommet du sommet de l'amour, parce que tu rends amour pour amour à Jésus. Jésus donne toute sa vie par amour, et toi, tu donnes ta vie par amour. Je pense à la petite américaine évangélique dans son lycée de Littleton, qui a été tuée par des anciens camarades de la secte hitlérienne où elle était. Donc, 13 enfants sont tués. On lui pose la question, crois-tu en Dieu ? Oui, bien sûr que j'y crois, ben, va le rejoindre. Or, le matin même, elle fait un petit mot pour une camarade, sans soupçonner ce qui va arriver une heure après, où elle dit, je sens que je vais donner ma vie pour Jésus. Je sens que c'est très dur, mais c'est tellement beau parce que lui a donné sa vie pour moi. Et si tu ne sais pas pour qui donner ta vie, ce n'est pas la peine de vivre. Et tu as dû être prêt à chaque instant à entrer de plein pied dans l'éternité. Voilà une petite de 14 ans, 15 ans plutôt, évangélique, qui a tout de suite saisi. Et une heure après, elle est tuée pour sa foi, pour son amour de Jésus. Parce qu'elle a quitté la secte, elle s'est libérée de cette secte et est venue évangéliser. Et ses anciens camarades hitlériens. Voilà. Ça, c'est un exemple de martyr très moderne dans une école aux États-Unis, mais c'est le martyr à l'état pur, rendre amour pour amour, vous voyez ?
Voilà, donc en tout cas, alors, un Dieu qui donne sens à la souffrance et qui permet en fait de transformer cette souffrance
mais qui l'illumine
en une offrande d'amour.
Qui la transfigure. Il suffit de voir quelquefois ces personnes qui portent un handicap lourd, physique ou mental, qui souffrent atrocement dans leurs hôpitaux, mais qui ont une paix, un calme, une douceur qui est du ciel. Mais c'est impressionnant. Ils vivent leur souffrance avec une paix du cœur comme inexplicable. Je peux donner des quantités d'exemples. Parce que j'en ai rencontré tellement dans ma vie. Et là, tu touches du doigt que Dieu est là, Dieu est présent. Et alors, ce qu'on appelle les petits sacrifices, c'est les petites choses que librement, ça t'est pas imposé par les événements ou par les autres personnes, par pur amour, même une toute petite chose, tu vas l'offrir pour aider Jésus à sauver le monde. Les enfants de Fatima, là je rentre de Fatima pour le centenaire, et ils ont été les experts là-dedans, quand la Vierge leur demande d'offrir
donc les enfants de Fatima,
sacrifices.
Il faut juste préciser, donc Fatima c'est un lieu au Portugal, voilà. D'apparition mariale reconnue par l'Église en 1917, voilà. Où la Vierge est apparue, voilà. À trois enfants.
Où le pape va aller pour enfants. Les 100 ans, voilà. Le 13 mai, donc tous les médias vont en parler. Eh bien ces petits enfants qui sont les premiers enfants canonisés par l'Église, eh bien quand ils ont compris ça, le pouvoir qu'ils avaient pour sauver des personnes, pour les arracher à l'enfer, pour leur ouvrir le ciel, eh bien, ils renonçaient à leur petit pique-nique, leur donnaient à leur chèvre, etc. La petite Chachinta de 7 ans renonçait à danser, ou beaucoup moins, alors que c'était une passion de danse, ils renoncent à leur petit jeu, et tout ça dans une joie, toujours en train de sourire, etc.
Voilà, mais merci beaucoup Père Daniel, je suis désolé, mais l'émission touche à sa fin.
Ça passe trop vite.
Merci beaucoup, on vous réinvitera, merci beaucoup pour cette émission, donc je rappelle en direct donc de Pratelon, dans le diocèse d'Albi, dans les montagnes, avec vous, je rappelle, vous êtes fondateur de l'école Jeunesse Lumière, école internationale d'évangélisation. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.